What's up la gang de Pinladeux, cette semaine, podcast numéro 45. On commence le tout avec un petit changement qu'on apporte pour le moment, pour la fin de la saison, vu que c'est un peu mort avec tout ce qui est voiture. On passe à une programmation aux 2 semaines. Ça va revenir bien normal, rendu à l'été. C'est juste qu'en ce moment, ben il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout le monde est tranquille. Le couvre-feu, ça cause problème pour tout le monde. Donc, on revient en force, rendu à l'été, pour la saison 2 au final de Pinladeux. Et cette semaine, podcast numéro 45, une série, on pourrait dire, de podcasts commence de cette manière-là. On va faire le tour du circuit Ebisu. Donc, c'est un circuit au Japon qui est très, très populaire pour la drift. Donc, on parle de l'histoire, on parle de qu'est-ce qui se passe là-bas, des voitures qui tournent là-bas. Puis, ça a l'air qu'il y a un parc safari aussi. Donc, on démêle un peu tout ça. Puis, on finit ça avec un JDM Corner d'une voiture que je vais peut-être jamais avoir dans ma vie, mais j'aimerais vraiment ça d'en avoir une. Donc, restez avec nous, ça va être bien le fun. Bienvenue au podcast numéro 45.
Ouais, right?
Ah, yeah!
C'est bon.
Fait que.
As-tu ouvert ta bière?
Tommy, veux-tu ouvrir ta bière? On va prendre la peine de le faire comme à chaque semaine. Ouais. 1, 2, 3. Oh! Je pense que c'est une des meilleures, celle-là. Mais Tommy, t'es pas là. Fait que ça a tout fucké.
C'est une blanche,
ça? Ouais.
J'aime ça, les blanches.
Ton nom, non. Il parle de bière, là.
Ouais, il parle de bière.
Il parle de bière.
Puis, c'est ça. On a 12 ans.
Que c'est bon.
Donc, bienvenue cette semaine. On a des très beaux sujets qu'on va discuter. Ouais. On va se concentrer, peut-être une sorte de série de podcasts, peut-être, qui se commence avec ça. On va se concentrer sur un circuit qui existe dans le monde puis qu'on trouve emblématique. Ouais. Puis on en jasait pendant le podcast. Donc, on a tout plein de trucs qui sont moins connus ou juste pas connus parce que ouais. C'est... un circuit qui n'est pas ici au Canada. Donc, ça va être ça le sujet principal. Puis, on finit ça avec un JDM Corner. Mais avant tout, Xavier, t'as fait quoi cette semaine de ta vie?
Relax. Hey, guys, je vais chercher une deuxième table, le podcast.
Yes!
Ouais!
Yes! Ouais. Donc, comme tout le monde a pu remarquer...
On a changé le setup.
Ouais, on est rendu 2.0.
2.0. Vous pouvez nous dire si, comment vous trouvez ça aussi?
Ben oui, si vous appréciez le changement.
Nice, si tu trouves ça laid, inbox Xav. C'est lui qui l'a trouvé. Il l'a dealé à la hausse en plus.
Fait que... Ah oui, c'est vrai.
Tu sais, quand t'es une table à 40$, ouais. Xavier était comme, je t'offre 30$. Puis tu sais, c'était une bonne offre, là, ça avait du sens. T'es rendu à ce prix-là, il a quand même baissé de un quart du prix. Là. C'était une bonne offre, tu sais. Puis le gars, il a accepté. Puis là, maudit, il s'est fait offrir 40$. C'est ça, hein?
Ben, j'avais oublié de dire au gars que je voulais y réserver. Ah, j'avais pas fait de scène sur le message. Fait que là, il est 2 jours plus tard, il était plus sûr que je suis intéressé, mais il m'a écrit pour dire t'es-tu encore intéressé à la table? Puis il y a quelqu'un qui vient acheter à 40, sinon. Je suis comme, fuck, j'ai oublié de t'écrire. Oui, je la veux, mais là, fuck, mon offre à 30$, ça tient plus.
Colin.
Est-ce que t'as pas
fait dans vie, là.
Pas bon, man. Pas bon, man.
Avec des 10$ qu'on fait des 100$.
T'sais, j'avais dit là, que j'avais manqué plein de ventes sur Marketplace. Ouais. J'avais skippé, là.
Fait
que
faire skipper
encore, ça marche.
Le marché des tables, là, c'est assez agressif.
Ah,
je pense que je vais me lancer là-dedans. T'es les roues puis les tables usagées.
Mais ça, c'est du vrai bois aussi, ça paraît. Là.
Ouais.
L'augmentation du prix du bois.
Non.
On a gardé le même grain.
C'est celle-là. Hein?
C'est celle-là?
C'est
celle-là.
C'est la nouvelle.
Aïe,
aïe. Aïe, aïe.
Fou, on l'a même pas remarqué.
On a la plus belle zone.
Moi, puis Gab, ça
moi, j'aime ça les affaires neuves.
Ouais, tu sais, c'est neuf des années 80.
Ça a fait plusieurs parties de Noël, ce chat.
Ça, c'est oui, c'est sûr. Il y avait un pari pâté, pas un pari pâté, il y avait un pâté à la viande, ça.
C'est bon, c'est piquant que c'est gros de même.
Ben, quand tu veux, man.
C'est sûr, ça s'est changé les sauces, cette table.
Gab, il aime gros, c'est pâté à la viande,
man.
Il les connaît par cœur.
C'est quoi ça? C'est ça que t'as fait cette semaine.
T'as dealé, pas dealé la table.
Ah, j'ai fait des commissions pour le podcast.
Finalement, tu l'as eu pour.
Tu l'as eu full price.
35$.
Combien?
35.
Ah, ok, vous avez coupé
la poire. Les gars, au moins,
ils étaient comme ça.
Il a coupé la poire en deux.
C'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a coupé la poire en deux.
Bon, tu sais, au moins. Au moins.
T'as pas 25 ans, toi, c'est bon. J'ai compris tout ça.
5$, c'est 5$.
5$.
Lui, il s'est acheté du McDo, toi, t'en as pas acheté. Coupé.
Puis sinon, c'est tout. Sinon, cette semaine, ben relax encore une fois, c'est l'hiver.
C'est l'hiver. Puis toi, Tommy.
Aujourd'hui, on a fait des réparations sur mon auto.
Ouh, t'étais, hein, je pense.
Ouais. Ben, t'étais là quand j'ai changé mon huile. Dans le fond, j'ai changé mon huile à brake, l'huile à power steering, puis les brakes. Mes pads, je freinais sur le métal, sur un saltan. C'est vraiment atroce.
Je sais pas, ça aurait valu la peine que t'en gardes un, genre.
J'ai mon pied, je montrais une photo, je l'ai laissé dehors dans le bac de stock. Ça n'a aucun sens, là.
T'as passé le stade du cri.
Oh,
c'était
non.
Juste le métal.
Oh non, mais ça criait en permanence.
Faut voir que tu prenais avec ça. Comment tu freinais?
C'est que depuis...
Avec ton pied, là, t'es rendu là.
Mais ça breakait. C'est juste que... Il y a une affaire qu'on a vue quand on l'a défaite.
Ça breakait avec le break à bras, là.
quand je l'ai défaite, j'ai vu que les quatre breaks étaient usés croche. Fait que là, ça me fait un peu suer, tu sais, parce que je me dis, on a graissé les pins, etc. Fait qu'il y avait comme un manque d'entretien, clairement. Fait que ça breakait quand même, mais mettons, exemple, il y avait un pad sur deux sur toutes les roues qui étaient finies un peu, là, tu sais.
Puis là, habituellement, le côté piston est tout le temps plus utilisé aussi, là.
Je sais pas si c'est bon, là.
Oui.
Mais en tout cas.
Oui, Tom.
Non, mais.
C'est comme ça que ça marche.
Parfait, merci. fait que. C'est ça, puis là, dans le fond, le pad en avant avait commencé à gricher, ça fait une semaine, genre. Puis comme vraiment intense, fait que j'ai commandé des pièces. C'est parce que ce qui me gosse, c'est que je voulais pas commander de la scrap plus chère dans un autopart. Tu sais, parce que c'est souvent comme ça, quand tu commandes en ligne, c'est moins cher, tu sais. Fait que j'ai commandé sur Max Break, puis une journée, c'était livré.
Boom!
Ça, c'est Max Break. C'est quoi, c'est carrément un magasin qui s'appelle demain?
C'est un entrepôt canadien qui est situé en Ontario, qui fait juste des breaks.
Ah ouais?
Tu rentres ton modèle d'auto, puis te donnes les catégories de break, puis c'était pas cher, là. Je pense que c'est comme... Ça coûtait comme 225$ les 4 disques, les 4 pads. Puis c'était de la bonne qualité, là, tu sais. Fait que...
On chialera pas pour un deal de même.
Non, quand même pas. D'œuf. Fait que c'est ça, puis on a changé le labrique et c'était opaque. Genre noir, noir, noir. Et vous savez, le labrique, c'est comme très clair. Là.
Ouais. En passant, on dit du liquide de frein et non de l'huile.
Ah, oh, d'accord. Du liquide de frein, excusez-moi.
Ouh. Parce que de l'huile à frein, dire, là. De l'huile à frein, ça n'existe
Gab,
pas.
Gab, c'est le maître aujourd'hui. Il va te pogner à chaque fois.
Mais ben moi, parce à chaque fois que quelqu'un me dit de l'huile à frein, là, c'est genre.
Tant qu'il me pogne pas dans un.
Ça, c'est la même personne qui dit mon galloper.
Ouais, moi,
avec un gros G gras.
Ouais,
Galloper.
Galloper.
Ça, c'est mon genre, ça. Je prends une bière sur mon balcon puis j'envoie chez tout le monde. Ah. Mon cool. Galloper! Mais c'est ça. Fait que on l'a vidé, c'était dégueulasse. Power steering et tout. Moi, j'avais un problème de power steering. Hein.
Ben, ouais.
Mais t'avais de l'air. T'avais
quand,
de l'air dans
quand mettons, il y a des moments, c'était pas toujours là, que je tournais les roues un certain moment et puis le volant devenait dur.
Ouais,
fait qu'on a comme... Ben, je sais pas si on peut dire bleeder le système.
Ouais.
On a sorti tout.
T'as vidé à scrap, t'as mis du nouveau. Là.
C'est ça, exact.
Il y avait carrément de l'air dans le système. Là, c'est
ouais, exact. Merci à Maxime. Il voulait que je précise aussi, parce qu'il écoute le podcast, il voulait que je précise que j'ai pas fait à 100% toute la job.
que tu prends pas le crédit. Un peu, on va dire un peu le même pourcentage, moi, quand il était venu faire ton bearing.
Mais je suis content parce qu'il me laissait faire. D'habitude,
gentil.
Ouais, mais d'habitude, il est comme, torse-toi, là, ça marche pas. Là. Je suis comme, mais je vais apprendre.
Ouais, il t'a fait confiance.
Ben, j'ai fait.
Il t'a enlevé tes petits trous. J'ai fait ton vélo.
Il t'a poussé dans le dos.
J'ai fait au moins 60%. Au moins.
C'est
bon. C'était un bon cap.
Là, on va voir si ça tient.
Ça tient. Je
ben, ça tient là. Mm-hmm. On va voir prochain podcast.
Si ça tient pas, le restant du 40%, c'est de sa faute.
Si la semaine prochaine, vous voyez que Tom est pas là.
Ou avec un autre char.
Ou si on l'a déjà remplacé.
Essayez-vous de me jinx puis de me tuer.
Non, mais tu sais, il y en a plein là, de monde qui font du montage vidéo. Là. On va juste s'arranger.
Ben, ça me dérange pas, si tu veux. On cherche quelqu'un, une personne qui pourrait être animateur un petit
backup.
Peu. Puis non, je comme si je voulais te remplacer.
Oh, shit, hein?
Un backup. Juste un gars de même, genre. Une poupée.
Non, mais t'es le gars sur le banc, genre. T'es comme d'un peu tanné de parler et tu donnes la tape et
ouais,
en place. Fait que sur ça, Gabriel, toi, cette semaine, t'as-tu fait de quoi en lien avec l'automobile ou c'est pas mal resté la vie de tous les jours tranquille?
La vie de tous les jours tranquille, je te dirais.
Pas rien commander, rien de spécial. On n'a pas retouché à ton char, donc
non,
ça va attendre à la fin de semaine prochaine.
Ouais, non, moi, c'était assez tranquille, là, je te dirais. Là. On attend la bonne journée pour les défaire, en fait. Sinon, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui veut les acheter. Pris des photos tantôt pour y envoyer.
Des petites vidéos.
Ouais, ça avait l'air bien intéressant. Montrer, il voulait juste voir l'état, mais tu sais, moi, j'y ai dit qu'il n'y avait même pas 15 000 kilos de fête, mais c'était encore plus bas que ça. Là.
C'est le pire temps pour vendre en ce moment.
Ouais, mais c'est quand même pas pire qu'un gars qui veut tout acheter au complet.
Oui, en tout cas, moi, je travaille juste dans
les ventes. Ben, tu dis c'est le pire, mais tu sais, ça s'en vient, là.
Ouais, donc, le printemps arrive. Mais là, le monde, on dirait qu'il est zéro prêt encore à faire une dépense pour la voiture.
Mais tu sais, Ouais. Ça se peut que je reste collé un bout de pareil avec si jamais il décide qu'il ne prend pas. Là.
Ça
mais moi,
pas
au moins, là, d'un coup que ça va être défaite, je vais pouvoir. Parce que je pense pas que je vais le vendre à quelqu'un direct. Je pense que je vais aller le porter dans un garage, puis sinon je vais être collé avec ça.
Ouais.
Parce que c'est pas comme un char à 3-4 000. Là,
ouais, t'es différent.
Ouais. Fait que non, on parle là-dessus, moi, rien passé de bien spécial. Là. Fait que c'est ça.
Moi, j'ai encore dépensé cette semaine.
Ouais. T'as vendu ton âme au diable?
Hein?
T'as vendu ton âme au diable?
Ah, j'ai pas le choix. Je veux dire, les fonds. Je veux dire, le diable m'offrait de l'argent. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, t'es ma bitch. Je suis comme, ok. C'est juste ça. Mais.
Tu dirais comme un cochon?
Ouais, ouais, c'est exactement ce que j'ai entendu. J'ai comme pas voulu le dire.
Ouais, ça voulait coupe, là.
C'est sûr, je coupe pas.
Mais ouais, j'ai acheté un downpipe hier.
Oh, j'étais pas au courant, ça.
Ouais.
Je savais que t'avais dépensé, mais.
Ouais, ben j'avais pas le choix, le mien était tout craqué, fini raide. Là.
Une, comme un Mazda Speed.
Une scrap chinoise, là, sûrement que le gars avant moi a acheté 100$ là, sur eBay.
C'est triste.
J'essaie de faire un lien, ça a pas marché. Un Mazda protégé Speed, tu sais.
Mais il était d'origine, c'est pas ça le problème.
Mais ils sont tout le temps craqués.
Non, bref, c'est le manifold.
On va pas s'éterniser là-dessus.
Bref, ouais, fait que le mien était scrap, je veux dire, ça servait à rien de mettre du temps dessus, là. Il était tout fendu pis tout.
Mais tu roulais avec ça.
Ouais, c'est ça le pire.
Ça veut dire que t'as des pertes.
Ah oui, ce char-là a beaucoup de pertes.
Tu devais perdre la moitié.
D'où le nombre de hausses de vacuum que j'ai trouvé qui était juste comme fendu.
Ah, ouais.
Je veux dire, je me disais, je comprends pourquoi des fois je trouvais qu'il était, il roulait bizarre. Là.
Mm-hmm.
Je veux dire, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'étais comme, il y a de quoi qui manque. Ouais. C'est un char de 25 ans.
Manque de compression.
Ouais.
Des leaks un peu à quelques endroits.
Leak
là,
d'exhaust, leak de vacuum. Il y avait tout. Ouais. Là.
Ça va faire du bien aussi.
Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas le choix, j'en ai trouvé un, ça m'a coûté quoi, quasiment 400$.
Mm-hmm.
Fait que,
c'est
pas super. J'ai...
Il est neuf?
Ouais, livré. Ouais, il est neuf.
Ah, ok.
Ah. Il est neuf, fait que c'est acceptable.
Ouais.
J'ai-tu parlé? Oui, c'est ça. J'ai acheté. Parce que Maxime m'a fait peur.
Comme d'habitude.
Il m'a dit, tu sais.
Il est bon pour faire peur, lui.
Ouais, mais c'est, il est lettre pour ça. Je sais qu'il nous écoute, là, je sais qu'il est dans son truck en ce moment. T'es une lettre. Puis, il m'a dit, ouais, mais là, s'il arrive de quoi, puis je sais pas, il y a quoi qui se passe mal, le char, puis il saute. Je veux dire, tu fais quoi? Là, je suis comme, quoi, je fais quoi? Je pleure.
Ah ouais, c'est ça.
C'est le char, saute.
Première affaire à faire, tu pleures.
Ma vie est finie, là.
Mm-hmm.
Fait que là, il m'a mis ça dans la tête que, genre, c'est quand même une possibilité que c'est... tout ça. Puis là, j'ai parlé à un gars d'MR2 qui me disait « Ah ouais, je n'ai vu beaucoup d'MR2 sauter avec le Power FC. »
Ouais, ça, rien pour aider. Là. Ouais. Les Power FC, ouais. Dernier ou l'autre d'avant.
Vraiment ouais. Rien pour t'aider. Là.
Ouais, là, j'étais comme « What the fuck? » J'ai comme... Je pensais que j'avais quelque chose de pas pire. Mais tu sais, j'ai quelque chose de bon. C'est juste qu'il n'y a aucune protection contre le NOC. Je viens de lui parler. Hein.
Ouais, t'en as parlé.
Fait que cette semaine, j'étais allé acheter un safeguard.
Tu l'as, là?
Ouais, je l'ai. Ah, okay. Il est dans la boîte qui est juste là. Puis un safeguard, dans le fond, c'est que ça va se connecter directement au NOC sensor, puis ça va enlever du timing pour te sauver la vie.
Mais ça, tu en avais parlé.
Oui, je n'avais parlé.
Oui. Ouais. Ouais.
Fuck, je me répète, je suis rendu vieux.
Sauf que, là, tu te répètes, sauf que là, on avait parlé,
tu
que ça
parlé,
prenait
mais
ça.
Tu l'avais pas.
Là, tu l'as acheté.
Là, je l'ai acheté. Là. Ça, c'est 450 bidous.
T'as dépensé 1000$.
Je pense que ça vaut la peine là, sur un truc.
Ouais, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
Mmh. Ben, c'est...
J'ai commandé aussi toutes les petites affaires qui me manquaient chez TSA. Fait que je vais avoir comme un bill de, je sais pas, 50$.
Une pile en plastique.
Des petits rings de cop. Des petits bouts de caoutchouc. Il en reste vraiment pas gros. Là, pour vrai, là, j'avais jamais eu ça depuis un bout. J'ai une date qui va être terminée en tête.
Ah ouais?
En mai.
Le 1er septembre 2022.
On aurait dit le début d'une galaxie près de chez nous.
Oh.
Le 1er septembre 2022.
C'est bon.
Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser.
J'avais une voix.
Dans le fond, tu dis
la tête est partie.
Maximum deadline en mai.
Ouais, j'ai l'impression de me faire tuner en mai.
En mai.
Ouais. Mais ça va me coûter 1500$ rendu là aussi.
Puis de faire brosser en juin.
Ouais, jeu qui me brosse. Là.
C'est bon.
Puis.
Brosse-moi.
Puis. C'est ma fête qui arrive bientôt. Fait que mes parents, ils étaient comme, t'aimerais quoi, ta fête? Fait que là, t'sais...
Que mon char roule.
Hein?
Que mon char il roule.
Comment ça tu payes mon char?
Non mais t'sais, à chaque fois, on a comme pas vraiment d'idées parce qu'on est des gars de char pis t'sais.
Ouais.
T'as un peu dur de donner des bonnes idées faciles.
Ben t'sais, ça, disons, on a l'idée dans la tête, mais
ouais. Ouais, c'est ça.
La transmettre, dire pis... j'aimerais ça, ça.
T'sais, ah, achète-moi okay. Cette pièce de char-là ah. Usagée.
Puis
là.
Mes parents sont vraiment sacoches parce qu'ils s'arrangent toujours pour acheter de quoi au Japon, genre... puis me le donner. Ils sont vraiment sa coche. Puis là,
fait, qu'est-ce que t'as demandé?
Je leur ai parlé que j'avais les, ils savent que j'ai des barres et carreaux qui traînent en haut. Puis là, je leur ai dit, ah, c'est un peu chiant, les rails, c'est juste ça qui manque, mais j'ai pas le goût de dépenser pour ça. Puis là, mon père m'a dit, écoute, paye le shipping, puis un complet, puis on paye l'autre.
Fait que moitié prix.
Fait que moitié prix. Mm. Fait que là, je suis comme, ah, stick de deal.
Tu vois, dans le fond, toi, c'était ça qui manquait.
Ouais, il manquait les rails. Parce que c'est quand même cher, là, des rails, c'est quoi? C'est quasiment 300$, là. Un.
Pour un?
Ouais.
Mais, ah, c'est bon. Il t'a dit ça aujourd'hui, genre à la journée de sa fête?
Non, hier.
C'est tout si pire.
Pourquoi?
Bonne fête, Pat. Peux-tu me payer des bains?
Non, mais ça faisait un bout que j'avais, de, j'avais lancé l'idée de ça ou de s'arranger de quoi. Puis ils me l'ont dit, ah, on s'arrange de quoi. Là, mais tu sais, ça coûte cher un peu. Là, tu peux-tu... T'sais, si on te le paye genre juste un, t'es capable de payer le reste. Comme, bah, that's it.
C'est quand même nice.
Ouais, je veux dire... quand même bon. C'est quoi le shipping là-dessus?
Je m'en rappelle. Je m'en rappelle pas. C'est pas énorme. Là. C'est des boîtes qui doivent être une tuile un peu plus
parce
que.
Bon
un peu
poids,
plus que 12
par pense, c'est,
hein?
C'est au poids, eux autres, qui y vont.
Ouais, c'est le poids puis le volume, là, un peu des deux. Là. Mm. Mais ça doit pas être tellement coûteux. C'est juste, ça rajoute déjà à. Tu sais, quand t'achètes les deux plus ça, c'est comme ça devient beaucoup. Là.
Quasiment à 1000$, ouais. Là, d'après moi.
Ben, non, pas
mettons
si payé que ça. Là.
800. Il y a des taxes aussi, j'imagine.
Et des douanes, ouais.
OK.
En tout cas.
Tu veux-tu la facture détaillée?
Ouais, c'est ça.
Moi, j'aime ça.
Combien c'est tu payé? C'est 15% ou c'est juste 10% de taxes?
C'était quoi le taux d'échange?
Non, c'est ça.
Tu portais quoi quand que tu y as demandé? C'est parce que ça a une importance.
Fait que c'est ça. Parce que j'avais vraiment mis ça. J'avais repoussé ça. J'étais comme fuck les récaros.
Ça fait un bout de tes.
Ah ouais, je les ai achetés. Quand est-ce qu'on les a achetés? C'est avant la pandémie?
Ouais, j'étais allé les chercher au début de la pandémie, il me semble.
Ah ouais?
T'as pas avant ça? C'est comme dans les débuts là, qu'on commençait avant. À faire les podcasts.
Non,
ça.
C'est vrai, c'était au début de la pandémie parce qu'on n'était pas supposé aller à Montréal dans ce temps-là. Parce qu'ils disaient de pas aller à Montréal pour rien.
Oui, puis moi j'habite à Montréal.
Puis toi, tu habites à Montréal.
OK, je pensais que c'était avant. Mais ça me semble dans les débuts des podcasts, ici, ils les avaient.
Oui.
Ouais, c'est cet été.
Donc, moi, je veux juste faire
un podcast
prière.
Qui a commencé après le...
Je veux juste faire une prière parce qu'on n'aura plus de récaro des invités.
Ah.
C'est ça comme ça.
Ah fuck. Mais il faudra aller à Croascrap comme on disait.
On va acheter, je sais pas moi, le siège conducteur Mercedes des invités.
C'est ça de même, mais tu sais, c'était un peu mon épisode la semaine passée, puis j'ai même pas eu la chance de m'asseoir.
Non.
C'est vrai.
J'étais triste.
C'est vrai.
J'ai pleuré toute la nuit.
Mais parlant de MR2 qui va. Puis on perd le récaro d'invité, le MR2 va rouler à un moment donné. Le setup va encore changer rendu là parce que cet épisode-ci, ben là, ça se voit pas avec la caméra là, mais Tommy, tu pourras changer d'angle de vue là. On est en dessous du MR2.
Boom! Mm-hmm. On est le seul et unique podcast sous une voiture.
Et tu l'avais pas
au monde. Hein? Non, je voulais la dire. Elle est vraiment importante. Toi, on est unique, là. Assez de battre ça. On est un podcast de char.
En
tu parles en dessous d'un char.
Ouais.
Il faudrait être dans un char, en dessous d'un char. Ouais. Là, ça serait malade.
On serait mort, je pense.
En tout cas, on est content que le système soit neuf parce que tu sais, au moins il tombera pas dessus.
Dans un char, sous un char.
Sur ce, on est parti dans le sujet principal, les boys.
Non.
Je suis down.
Je suis down.
Okay, 3 contre 1, c'est correct.
Fait que de quoi qu'on parle cette semaine? De quel circuit qu'on parle cette semaine, Xavier?
Ça a passé des nouvelles, là. Je sais pas. C'est pas la grosse nouvelle du siècle. Là.
C'est pas pour ça à TVA
nouvelle.
C'est
pas tout le monde qui, nécessairement dans le monde du char, qui serait au courant, mais. Je pense que le monde a vu passer qu'au Japon, il y a eu un tremblement de terre il y a de ça 2 semaines maintenant.
Quelque chose comme ça, ouais.
Puis, dans le fond, le circuit Ebisu Circuit, dans le coin, dans la préfecture de Fukushima, il y a eu un tremblement de terre de 7.3 en magnitude.
C'est un mot, ça.
C'est un mot. Puis, ben la track a été endommagée, fait que ça tombe bien, là, on va pouvoir parler du circuit. Qu'est-ce que... Elle est retombée des nouvelles pas mal, là, tout le monde en jase un peu. Là.
Parce que c'est quand même un puis circuit emblématique.
On se dit, on va
je pense que ceux qui
sont qui se passent,
un amateur de drift qui doivent un peu moindrement connaître c'est quoi Ebisu.
Ouais,
c'est là où est-ce que les gros événements de drift au Japon avec les meilleurs conducteurs se passent. Les conducteurs mondiaux qui vont là pour compétitionner avec les drivers qui sont là. Donc c'est une piste qui est connue là, pour la drift principalement. Ouais. Puis là, on pourrait se dire, on s'est dit que en fait, on voulait regarder un peu plus en profondeur c'était quoi Ebisu, l'histoire.
Pourquoi le monde connaît Ebisu?
Pourquoi c'est si populaire? Il y a quoi là-bas? On n'est jamais allé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je me suis rendu compte que c'est sûr que quand je vais au Japon, il faut qu'on passe là.
Oui.
C'est ben trop malade.
Oui.
Puis, je me suis arrêté à trouver, c'était où au Japon, puis donner comme une idée à tout le monde, tu sais. C'est si t'arrives de Montréal, OK. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Tu arrives à l'aéroport de Tokyo. Là, t'es genre, je me suis allé et bisous tout de suite. Straight. C'est environ 4 heures de char. Puis, je dis que 4 heures de char, puis je propose pas d'autres alternatives parce qu'il n'y a pas un Christy Chat qui va aller là, pas en char. Voyons en donc, allume-toi. Là.
Attends, en taxi peut-être parce qu'il va, il va peut-être acheter un char là-bas.
Ouais, peut-être. Ouais.
C'est bon, là.
On va en discuter un peu plus loin de ça. Fuck le train, là, tu te rends là en char. Puis dans le fond, cette piste-là est entre plusieurs comme chaînes de montagnes, est-ce que j'ai compris, là?
Ouais, ouais. Une montagne. Ouais, carrément une montagne. Une montagne.
Dans une chaîne de montagne.
Ouais, ouais.
Ouais,
ouais,
une montagne.
Faut pas que tu fasses ça quand j'ai du jus dans la bouche.
C'est rendu ça à bière pour toi.
Ben, bon, ouais. Petit jus, ça.
T'es rendu à ce stade-là dans ton problème d'alcool.
Ouais,
t'as le petit jus. Le petit jus pour le lunch.
Faut se mettre en contexte. Ibizu, en fait, c'est pas un circuit en tant que tel.
C'est ça qui est le plus. Je pense que c'est la plus grosse découverte de quand j'ai fait des recherches.
Ben, ouais.
Il y a genre 8 circuits.
C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un, c'est un groupe.
C'est une ville.
Ouais, il y a 7 circuits puis 2 skidpads.
Ouais.
Ouais.
C'est énorme. Hein.
Fait que, on va y aller comme un peu en détail un peu plus tard. Moi, je me suis posé la question genre, de où ça a commencé. Qui a fait ça? Mm-hmm. Fait que je suis allé voir sur des sites japonais, essayer de voir quelqu'un qui avait comme, je sais pas, fait des recherches sur l'histoire de Ibizu.
Ouais, parce que c'est pas full documenté.
Tu vas pas sur About sur le site du circuit Ibizu. Là. Ils parlent de rien sur leur site. Là.
Non, il n'y a pas de Wikipédia.
Puis j'ai tombé sur quelqu'un qui avait des images satellites en 1975.
Ah ouais.
Dude, genre déjà là, images satellites 1975.
Non, il n'y avait pas Google Maps dans le temps.
Il travaillait-tu pour comme l'armée américaine?
La NASA, genre. Il y a son drone personnel. Ouais, des photos.
La zone, c'est 51?
Ouais, exactement. Area 51. Il travaillait là, puis il parlait juste en japonais. Je sais pas comment il faisait pour s'entendre, mais en tout cas. Puis il montrait des images côte à côte de 2015 puis de 1975. Puis en 1975, il y avait de quoi dans ce coin-là? C'était des courses en terre battue. T'avais le plus vieux circuit qui avait commencé à être formé, puis c'était juste en terre battue. Fait que c'était principalement de la moto qui embarquait là-dessus. Puis il y avait une piste de motocross, parce que ça a l'air que c'était vraiment populaire le motocross dans ce temps-là. Parce qu'il y avait quand même, Yamaha, il y avait Kawasaki, il y avait tout plein de marques de motos.
Ouais, les brands japonais ont tous commencé par les motos quasiment.
C'est ça. Donc c'était. Pour vrai, je savais même pas que c'était tant populaire la motocross.
Ben, au Japon. Moi non plus. Mais tu sais, quand tu dis la marque, tu sais tout de suite que ça vient de là-bas.
Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je pensais pas qu'il y avait comme un gros attachement à ça. Puis il y avait une piste de kart. Donc j'aimerais ça voir les karts en 1975. Je serais comme curieux.
C'est comme... Ça doit être bien, bien puissant, là, j'imagine.
C'est sûr, tu sais, les petits moteurs, les chars avaient 100 force.
Les petits moteurs de kart qu'on a accès, tu sais, quand tu vas faire du karting, tu sais, oui, ça avance, mais c'est pas la bombe.
C'était des petits moteurs de moto, I guess. Là,
ouais, c'est
là,
ça.
Puis, dans le fond, en 1975, c'était pas mal ça. Puis, aujourd'hui, Ibizu, un peu comme tu as parlé, c'est 7 circuits, donc des vrais circuits, un pit de pratique. Il y a un restaurant, il y a un parc safari, il y a une place de location de voiture, il y a un taxi, puis il y a une école.
Mais ça m'a fait rire. Un parc safari, je suis désolé.
Mais c'est-tu pour commencer par ça?
C'est-tu pour domper tes kids? Bon, là, t'es comme, regarde, papa, il va aller drifter, là. Chris, moi, après, va voir les singes, OK? C'est-tu ça?
Je sais pas, mais moi, tout quand j'ai vu, même dans le poster des bisous, sont comme... Ils promotent le parc safari comme « Hey, puis si vous voulez relaxer, allez au parc safari! » Ouais, mais
oui. T'entends derrière « Il y a le singe! »
C'est de ça, je me disais quand je lisais un peu là-dessus, tu sais, qu'est-ce qui marquait eux autres, c'était genre, tu sais, entre deux sessions de drift, tout ça, ils disent « T'en vas te relaxer! » aller voir des animaux, puis après ça, tu reviens, genre...
Y a-tu de quoi plus, genre, apaisant qu'un tigre en cage?
C'est ça le pire, c'est que tu sais, c'est comme tout petit. Fait que les animaux doivent être moyen le bain.
Ça doit être fun, stressé, là. Ces animaux-là.
Ben ouais, stressé au coton.
Et en tout temps, t'as juste le bruit de, genre des tailleurs en arrière.
Ouais.
C'est un autre. Chacun ses goûts, là, je veux dire.
Il essaye de quoi, je sais pas. Là.
C'est ça, I guess. Ouais. Le restaurant, c'est un restaurant bien basique. C'est un resto avec des repas que tu peux t'acheter. Right? Puis, voulez-vous qu'on commence par comme faire un tour de tous les circuits, puis après on explique un peu ce qu'on peut faire là-dedans, genre?
Ben, moi, bon, ouais. Mais tu sais, moi, comme j'ai lu qu'il y avait 7 circuits, mais j'ai pas vu de place qui parlait des circuits détaillés, fait que...
À fond, ouais.
Ben, je peux faire ça, parce que...
Xav, t'avais quelque chose, tu veux?
Non, ben, c'est ça, c'est... J'ai la liste aussi, là.
Parfait, on va pouvoir se complimenter.
Là.
T'es beau, Xavier, là, la liste.
T'es fou d'excité, t'es comme...
Blacklist. Puis, moi, je trouvais hot, parce qu'ils ont plusieurs pistes, mais avec des idées différentes derrière ce qu'ils voulaient faire pour la piste. Pas juste comme une piste de drift qui ont fait comme des courbes ou whatever, pas mal similaires. La première, qui appelle le circuit D1, au final, c'est une réplique du Touge. Donc, des rues très minces comme en montagne.
Okay, okay.
Donc, c'est super sinueux, super serré, c'est très, très peu large comme circuit. Donc, c'est vraiment juste été fait pour répliquer comme Initial D, exactement.
Est-ce que tu sais le nombre de kilomètres?
Il y avait une distance, je ne l'ai pas pris en note, là, parce que, je veux dire, mais tu sais, c'était assez, c'était pas les plus gros, mais c'était assez standard là, comme circuit là, pour...
c'est le circuit pro, ça veut dire, parce qu'il y a un circuit pro de ça, il y a le circuit, le Mountain Pass aussi qui appelle pour faire le Toug.
Ouais, ben j'imagine que c'est celui-là là, qui appelle le circuit D1, sur le pamphlet des bisous, c'est le D1.
Ok, parce qu'ils ont des noms aussi.
Ouais, ils ont des noms, Minami, mais même les bisous les appellent pas tout le temps. Ouais. En tout cas, c'était compliqué d'avoir la bonne information. J'en ai pour quelques-uns. T'es, par exemple, le circuit D2, qui est un autre... Le D, c'est pour drift. Bonjour tout le monde.
C'est pas D.
Allô?
Puis le circuit D2 qui s'appelle Kita. Hein? J'ai lésé mes infos.
Le circuit Nord.
Le circuit Nord.
Secteur Nord, mon
père. Ça, c'est un circuit typique de drift. Alors, c'est ça qui se passe là-dessus. Puis c'est lui qui est le plus haut en montagne. Donc, c'est lui, il faut que tu montes une fucking code pour te rendre.
Très nice.
Ouais, fait que c'est assez escamoté. Escamoté, ça dit.
Tu pas là. Quand tu dis escamoté, je pense à des marches.
Mais... Ouais, c'est pas escamoté.
Je pense à un escamotage.
Escarpé.
Escarpé, merci. Merci.
Tu en as un qui a fait son français, ça.
Ouais.
Ouais.
Puis.
T'es-tu insulté?
Pourquoi tu veux savoir c'est quoi la différence entre escamoté et escarpé? C'est pas même faire, big.
Ok.
Tu es en train de dire qu'on est niaiseux?
T'avais-tu autre chose sur le circuit Kita de spécial?
Non, je sais que la plupart, c'est tous des circuits comme un peu amateurs.
Ouais.
À l'exception du circuit Minami, le circuit Sud, qui est le circuit des professionnels, des vraies compétitions pro de drift et de course, grip aussi. C'est fait sur le Minami.
Puis ensuite, tu as le circuit D3. Le D3, lui, c'est juste pour apprendre. C'est, dans le fond, c'est tout petit. C'est juste pour apprendre à faire comme des drifts continus. C'est quand tu commences, tu vas là.
C'est comme une grosse piste qui n'a pas vraiment de curve. Tu sais, mettons, style à Napierville.
Elle a des curves, mais c'est super large.
Ouais. C'est pas un gros pad, juste un gros ovale d'asphalte.
Qui a des cônes.
Non, c'est vraiment une piste. Circuit.
Okay.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de configurations, je pense, qui peuvent changer
sur la fin de semaine. Tu peux planter, puis dépasser, puis reste l'asphalte.
Ouais,
c'est pas mal des circuits faits aller là la fin de semaine avec tes chums de boys, puis faire du tandem pour le fun.
Puis l'entrée n'est pas vraiment chère. C'est pour souvent 55$, tu passes la journée que tu peux faire. Tous les circuits sauf le majeur, puis pour 65$, tu as le majeur que tu peux embarquer dessus. Pour vrai, comparer des mythes à 50$ que tu rentres juste pour regarder des choses.
Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire.
On lance pas de flèches, là, mais... Puis, je parle de ce circuit-là, D3, qui est aussi pour l'école de drift. Donc, ils ont une école de drift à Ebisu. Puis, c'est là qu'ils se pratiquent au début avec les élèves. Donc, t'as deux choix. Soit t'amènes ton char, puis t'as un instructeur à toi pour une journée complète. Puis, dans le fond, t'amènes tes pneus, t'amènes ce qu'il faut. Là. T'as juste le gars qui est avec toi et qui t'explique pour t'aider. Si on parle, t'as une journée complète avec le gars, c'est 580$ environ canadien. Fait que tu sais, pour commencer, il me semble que c'est assez facile. Au moins, t'as la base pour commencer, puis après, il te laisse aller.
Mais c'est une journée, ça?
Ouais, une journée complète.
Ben, c'est quand même cher parce que.
Je trouve pas, moi.
Ben,
au
si tu dis, je veux. Tu sais, mettons, je m'aurais attendu à peut-être, mettons, 3-4 sessions, là, la fin de même.
Mais, tu sais, aller payer des tours de piste, mettons, à Icor avec dans un char, ça coûte combien? Ça coûte 300$, quelque chose comme ça, mettons.
Ouais, puis t'as quelques tours, là. Tandis que là, dans le fond, ça paye ton entrée, pour toutes les pistes.
T'as un instructeur, ouais,
t'as un
qui
instructeur avec toi, tu sais.
Ouais, c'est sûr.
Puis l'instructeur, c'est pas n'importe qui. Hein.
Ouais.
Mais tu sais, dans le fond, t'aurais rien que besoin, mettons, de l'instructeur pour la journée. Puis après ça, quand tu y retournes les autres jours, ben tu fais juste comme mettre en pratique ce qu'il t'a dit.
Ouais, exact. C'est juste que t'as bien démarré, dans le fond.
Bon, non, ok.
Puis, exemple que t'as pas de char. Ben, t'as l'option avec l'école de drift qui te prête une voiture avec 4 pneus, puis avec une tank de gaz pleine, puis c'est ça ton char pour la journée, pour te pratiquer avec l'instructeur.
Est-ce que c'est le circuit que t'avais présenté à un YouTuber à un certain moment donné que...
Noriyaro, il est venu pour aller, je pense. Ouais. Je sais pas s'il y allait souvent. Ouais. Je sais qu'il y a YouTuber Samit, ben, que lui, il est tout le temps à Ibizu.
C'est un Australien.
Ouais.
Qui était... ouais, c'est lui, OK. Parce que je me rappelle qu'il y avait comme un R33 4 portes
qu'il
pouvait louer pour l'essayer.
Ah, il était gris, genre, la flamme?
Quelque chose
Je sais pas si c'était à Ibizu, ça. Je m'en rappelle pas, mais oui, c'est un peu similaire comme idée. Okay. Mais lui, eux, c'est une... je pense que oui, justement, la vidéo que tu parles, c'est qu'il y avait probablement une école ou de quoi, puis il avait juste prêté la voiture en attendant. Puis, dans le fond, pour les prix, tu as la voiture 4 pneus, une tank à gaz. Tu peux faire soit une journée complète, puis ça te coûte 1400$. Fait que c'est quand même pas donné, mais tu sais, tu n'as rien à te badrer. Tu n'as pas de char à entretenir, tu n'as pas de pneus à acheter, moins que tu sautes les 4 pneus, mais rendu là, tu sois un sacrifice de bon débutant. Là. Mm-hmm. Puis. T'as la tank à gaz comme de fait. Sinon, t'as une demi-journée qui est 700$. Fait que t'sais...
Moi, je le paierais, sérieux. Là.
Ouais,
pour
créer vrai...
un char dans le fond, un, t'sais, comme un emblème
un japonais. Pas, c'est pas de la petite guenée, là, non plus, j'imagine.
Ils prêteront pas un Corolla 90.
Du S13 ou du S14, du Skyline ou du JZX.
C'est quand même pas pire.
C'est ça. T'sais, tu t'amuses, là. Y a pas de problème avec ça. Puis t'as rien... à penser comme quoi, ah, il y a de quoi, il va arriver, puis ils vont péter mon char. En fait, non, tu signes une décharge, I guess, puis des assurances, puis eux, let's go, on est à côté de toi, puis on t'aide.
Ouais, c'est ça. C'est
fait pour vrai, en termes de concept, je trouve ça comme intéressant. Je sais qu'au Québec, il y avait déjà quelque chose de similaire, mais je ne sais pas si ça existe encore à Icar. Je sais qu'ils ont des écoles de drift, là,
ouais, il y a TLO Drift School à Icar, le gars qui m'a vendu mon Q45.
Ouh!
J'ai des connaissances, c'était des plugs dans le milieu.
Tu diras de t'ordonner ton sang.
Bon, non, c'est ça. Lui, je sais qu'il a sa propre petite école. Petite, je sais pas. Là. Mais à Icar, fait partie d'Icar, tu peux faire des formations drift.
Non, c'est le fun quand même. C'est un peu similaire. Puis là, on va sortir un peu de l'école parce que dans le fond, le circuit de l'école, c'est pas mal juste pour ça. Tu peux, j'imagine qu'ils vont changer de track s'ils trouvent que tu es assez à l'aise. T'as le circuit D4 qui est le Big Boy. Donc, c'est le qui est surnommé le Drift Stadium, donc Minami.
Ok, c'est celui-là, le Minami.
Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est le Big Boy. C'est là que tous les événements de D1, donc Drift Championship au
Japon.
Comme
le Formula D, mais japonais.
Ouais.
Le,
exactement. Donc, la grosse compétition numéro 1 au Japon de Drift, ça se passe à Ibizu, à cette piste-là. Donc, à chaque été, il y a cet event-là, puis ça attire tous les gros noms du Japon pour venir battle sur ce circuit-là. Donc, c'est le circuit emblématique de Ibizu, je pense, qui est le plus connu.
Il y a des courses, il y a aussi des courses de kart qui est là. Il y a des courses de véhicules open wheel qui appellent.
Ah ouais?
Ouais. Il n'y a pas juste de la drift. Il y a de la grip aussi.
C'est que tu sais, les petits karts là, avec comme une grosse cage, puis d'attitude.
C'est pas les sprint cars, ça, justement? Il y a genre un top bizarre là, dessus, là.
L'open wheel. Mm. Mais c'est quelque chose qui a rien qui protège les roues.
Mais
c'est comme
ça,
tout
mais
en
sprint car. Sprint car, c'est ça.
C'est un peu similaire. Ouais. C'est juste que le sprint car, c'est comme le gros aileron weird.
Non, c'est open wheel, ça veut dire
c'est
le style IndyCar, Formule 1.
Ah, ok, ok.
Ah ouais, ces pistes-là.
Ouais, ben non, ben pas sur ces pistes-là de Ibizu. C'est ce circuit-là spécifique. C'est le plus entretenu, le plus clean. C'est un circuit.
Oh, ouais, je savais pas que c'était ça.
Des standards élevés, là.
Je me disais, circuit de... Ça, à base, c'est un circuit de drift pareil.
Oui, à l'origine, oui.
Puis là, tu mets des voitures...
Ils pas en même temps, hein? Ils courent pas en même temps, les
gens. tu mets des open wheel, tu sais, je sais pas. Si tu es adapté, puis c'est ce genre de piste-là, tu sais.
Mais la drift, c'est...
Il doit bien avoir de la curve, tout ça. Mais malgré que ça tourne pas pire,
mais en même temps, j'ai pas l'image là, du circuit en ce moment, mais un circuit en général, peut-être il y a peut-être différents layouts qu'ils font pour les événements de drift que pour les événements de...
C'est ça, ils ont toujours une configuration qu'ils peuvent changer là, sur ces circuits-là.
Ouais, change un peu comme la,
comme,
la pièce un peu.
Ouais, comme quand ils font des courses, des compétitions de drift sur des circuits de NASCAR.
Ouais, ouais.
Ils font pas juste de la drift en ovale.
Ouais, tu me tiens le long.
Ça doit être le bon à regarder. Il va juste faire des gros donuts. That's it. Puis, si on continue, Le D5, ça, c'est, ils appellent ça le Kourou Kourou Land. Ça veut dire quelque chose qui, mm-hmm. comme, il tourne en rond au final. Fait que c'est un gros pit. C'est un gros pit.
C'est le pad, ouais.
Ah, c'est le pad pour.
Ça, c'est un pad, ok.
Ouais, pour te pratiquer à, comme, sentir la voiture déraper, I guess.
Style Napierville. Là.
Style Napierville, ouais. Mm-hmm. Napierville, au moins, ils ont comme une bank un peu plus surélevée. Ouais, ouais. Mais, tu sais, ça, c'est flat, là.
Ouais, il y a de quoi faire du fun pareil.
Oh oui, c'est pour pratiquer tes temps 8, tu sais, mm-hmm. pour suivre les drifts. En tout cas, la base. Donc, on va passer par-dessus, on peut pas nous en parler plus que ça.
Mm-hmm.
Puis, il y a deux autres circuits de grip. Donc, ça, c'est un peu plus tourné vers le time attack et autre chose, mais il y a aussi des compétitions de drift là-dessus. Tu as le G1 qui s'appelle le Higashi. Ça, c'est le plus vieux circuit. C'est lui qui date de 1970. Donc, c'est lui que les premiers tracés étaient en terre battue. Là. Donc, puis la plus grosse affaire spéciale de ce circuit-là, c'est que le plus bas point en altitude et le plus haut point en altitude de la piste, c'est à 67 mètres de différence.
Oh, shit.
Fait que genre, en termes de changement d'altitude, là, t'as comme une belle côte. Là.
Mm-hmm. Ouais, tes oreilles et ta bouche, rendu en haut.
Ouais, c'est ça. Là. Faut que tu manges la gomme quand tu courses. Là.
Ça fait comprendre à quel point c'est fou quand même comme circuit, comme emplacement. D'avoir fait
dans les
montagnes, des circuits de piste sur un flanc de montagne. Là. Ouais.
Puis nous, après, on chiale quand c'est trop proche des maisons. Il y a du monde qui s'installe en montagne. Là.
Ouais, eux autres, ils ont la crise de paix. Ben, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas personne. Ben, il peut peut-être avoir du monde qui habite là, mais.
On va s'ouvrir un circuit au Nunavut, calique, that's
it. Ouais. En plein hiver.
Mais il y a de la neige à Ibizou.
Ouais.
Ouais.
J'ai vu ça.
Combien de fois par année?
Quand même assez régulièrement, je pense.
T'es plus dans le nord?
Parce que vu que c'est comme, nord, ouais. quand même dans la montagne, mais en haut, il fait comme plus frais. Hein?
Ouais. Okay. Même qu'il y a une station de ski pas loin de là
ouais.
que j'ai lu. Puis des fois, ils font des compétitions avec sur glace.
Hmm. Ils font un triathlon. Et tu descends en ski, puis là en bas, il y a un choc qui t'attend. Il y a un choc qui t'attend.
Faut que tu montes à pied, à raquette. Okay. Tu descends en ski.
Ouais.
Après, tu prends le char, puis faut que tu fasses le plus
long
la drift. Pause de drift la plus haute.
Nice.
Ouais. Et les plus grosses slides.
Ouais. Les Japonais pensent à tout. Ils ont toujours des idées fuckées. Fait que ça, c'est le plus vieux circuit. Puis, c'est eux, un peu, Ibizou, qui ont commencé les festivals de drift, je crois. Donc, sur ce circuit-là, si je ne me trompe pas, c'est les samedis et dimanches. Peut-être à chaque fin de semaine, ou peut-être pas à chaque fin de semaine. Mais ils reçoivent entre 150 et 350 voitures sur le circuit dans la fin de semaine. Mmh. Donc, c'est vraiment le all-out, le back-à-back, le monde, il suit. C'est sûr que c'est une piste. Ils disent que c'est ouvert à tout le monde, mais il faut pas que tu sois débutant. Là. C'est une vraie piste. Je veux dire, tu peux pas fucker tout le monde. Tu peux avoir du monde derrière toi. Là.
Ouais, pendant cet événement-là.
Exemple, t'es... mettons, moi, je vais là puis je veux avoir du fun, puis là, j'y vais, puis je dis rien à personne, puis j'embarque sur la piste, je loue le char, mettons, 1400, comme tu disais tantôt. Clairement, il doit y avoir du monde sur la piste qui doivent checker le monde, puis il dit « OK, toi,
sors,
va sur telle piste à la place. »
Ouais.
Il doit avoir du monde qui check.
Tu parles de ça, mais ça amène un bon point. C'est que Ibizou, dernièrement, ils ont commencé à crack down sur les drift missiles. Donc, ils ont remarqué que beaucoup de monde arrivait à Ibizou, puis ils étaient juste là pour détruire une voiture. Tu sais, de pas faire attention, puis d'accrocher des murs, puis de décoller le char, là, pour vrai, là, mm-hmm. pour utiliser ce bon mot-là.
Ah,
là.
Ouais. Ouais. C'est un problème, ça. Qui...
Oui, parce que dans le fond, c'est que les voitures étaient plus sécuritaires.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est bien beau, là. Pour vrai, ils ont dit dans leur règlement, leur changement de règlement, c'est qu'il faut que la voiture, on puisse la reconnaître. Tu sais, c'est à ce point-là. Là.
OK.
C'est ça le problème.
Parce que Figaro, avec ses chars battés, comme tu avais montré à l'épisode,
ils disent pas que.
C'est professionnel aussi. Là,
ils veulent pas comme contrecarrer les missiles, OK, mm-hmm. nécessairement. Mais ils veulent que, en cas d'impact, là, exemple, tu te plantes, là.
Ouais.
Mais, tu pas, là. Ouais. Si le char en avant, là, tu reconnais plus rien là, du char en avant là, qui a été crashé 8 fois dans une barrière. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis après, tu le crashes une autre fois, là, puis là, je sais pas, moi, il y a de quoi qui passe à travers puis qui vient, tu viens de tuer. Là.
Ouais.
Je veux dire, c'est eux qui sont responsables de un, puis de deux, ben, je veux dire, c'est pas eux qui sont responsables, mais c'est leur circuit, donc ils veulent pas avoir un décès.
Ben, juste par le fait d'entretenir leur circuit aussi, ça doit être plus difficile. Là,
quand tout le monde fait exprès de pogner les barrières.
Ouais, exact. Oh.
C'est surtout ça, t'sais, ils veulent pas avoir des voitures complètement détruites qui tournent sa piste, puis que t'es pas capable de reconnaître, puis que s'il arrive de quoi, ben c'est le chauffeur qui reçoit le choc au complet. T'sais. Ouais. Fait qu'ils ont commencé à crack down ces voitures-là. Ils en demandent pas tant, là. Ils demandent une lumière de frein arrière Une. Pas deux. Une. Une lumière en avant si tu roules la nuit. Une. Une. La nuit. Pas que tu vois grand-chose ici.
Non.
Il demande que tes portes ferment, que ton hood se ferme, puis qu'ils tiennent en place, comme de fait.
Il y en a pas qui driftent pas de hood?
Ben, ils disent qu'ils veulent pas que rien qui soit ouvert, dans le fond. Qu'il soit lousse.
OK, ouais.
OK. Ils veulent pas que tu perdes de l'huile ou que tu perdes du Prestone, puis ils veulent reconnaître le char.
Il y a une petite évaluation qui doit se faire.
C'est ça.
À pouvoir
embarquer. Ils veulent reconnaître la voiture, tu sais, fait qu'il n'y a rien d'endommagé. T'es quand même, sa mère le reconnaît pas. Là.
Mm-hmm. T'es en train de me dire que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a un gars qui est arrivé avec qui pissait de l'huile, qui pissait du Prestone, qu'on reconnaît pas le char, pas de lumière.
Ouais, mais c'était pour vrai, c'était rendu ça maintenant. C'est que le monde arrivait avec la première scrap qu'ils ont sauvée d'une cour à scrap japonaise, qu'ils ont acheté pour, je sais pas moi, 300 yens, ce qui est littéralement rien. Là. Ouais. Puis il est arrivé là, puis il pissait l'huile, pissait tout, puis il rentrait ça dans le mur, et...
Puis il trouvait ça drôle.
À quel point tu maganes ta piste, ça n'a aucun sens.
Fait que c'était surtout ça, le crackdown. Ça a moyen passé parce qu'il y a du monde qui était frustré un peu de ça, mais je pense que tout le monde a compris que le but, c'est pas comme juste avoir des chars de D1. Là. C'est le but, c'est d'être sécuritaire plus qu'autre chose. Mm. Tu demandes juste un casque. Là. Je veux dire, il en demande vraiment pas gros. Là.
Je pense pas un casque et des gants.
C'est ça. Là. Ils disent, ben, une cage, ça serait le fun. Mais c'est tout. Là. Mm. C'est tout. Vraiment pas plus. Fait qu'on va tomber au deuxième circuit avec ça. Puis le dernier circuit, ben c'est le deuxième circuit de grip. C'est la piste la plus longue. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de time attack ou de lapping ou whatever qui se passe là, des compétitions. C'est le circuit Nishi. Donc, c'est lui qui est connu pour ça, pour le grip. Puis il y a aussi des compétitions de drift la fin de semaine.
Là, je le circuit, je trouve qu'il est le plus nice, qui différencie... Ben, tu sais, c'est un style très japonais, ça, là, mais le circuit de Toug, ça, je trouve ça sick qu'on n'a pas vraiment assez ici. Ben, je pense qu'il y aura peut-être. T'sais. Je ne pourrais pas dire, je connais pas assez les circuits au Québec, mais les circuits que c'est juste, c'est ben, évidemment one-way, là, comme la plupart des circuits. Ah, c'est bon. Mais c'est dans les montagnes, puis c'est juste de faire la passe de point A à point B. C'est pas des laps,
c'est un sprint. Là,
ouais, c'est un sprint dans montagne. Dans la forêt, genre. Fait, mais ça, si tu te plantes là-dedans, tu te déboules dans la forêt, mettons.
Ouais. Bye.
Mais il n'y a pas de barrière.
Ouais.
Mais ça, c'est sick. Tu peux, tu vois que t'es chum, t'es à l'aise en drift. Tu vas juste faire du tandem dans la forêt. Ça me fascine.
Ben, c'est typiquement l'image japonaise que j'ai du drift. Là,
c'est du 1 contre 1. Vitesse. Go.
Fait que là, exemple que tu dis, j'ai pas goût d'avoir de cours parce que moi, je suis capable de me débrouiller.
Genre moi.
Mais. mais tu te dis, j'aimerais ça avoir un char pour aller drifter et bisous.
C'est drôle, moi, ça.
Tu fais quoi, Xavier? Ouais.
Tu sais, comme on disait, tu peux les louer, tu peux en acheter, comme tu as dit tantôt. Tu sais, t'arrives, t'as pas de char partout. Power Vehicles.
Exact.
Qui est un garage sur le lieu de Ebisu. Je pense qu'il y a des circuits qui sont même. Autodrome Saint-Eustache, il y avait quelques garages.
Ouais.
Mais je pense pas que c'est.
C'était pas ouvert.
Là, c'est vraiment un garage dédié au circuit Ebisu.
Puis ils ont tout.
Ouvert tout le temps. Puis ils ont tout. Toi, tu crashes. Toi, tu as ton propre char. Tu le crashes. Ils ont tout pour le réparer sur place.
Ouais.
Tu arrives là, pas de char. Tu peux en louer un char. Eux, ils construisent eux-mêmes des builds de drift pour les louer aux gens. Ou les vendre.
C'est vraiment nice comme concept, je trouve. C'est cool.
Quand tu arrives là, tu veux, ben d'un, tu veux magasiner un char de drift, tu peux aller sur Facebook, mettons, ou tu peux aller direct à la shop qui font des chars de drift.
Ouais. Ils ont des véhicules à vendre sur leur site web, puis tu peux même acheter le char de juste quelqu'un qui le vend, qui est chez Power Vehicles. Fait que, exemple, qu'il y a le gars, je sais pas moi, il y a même des militaires américains, une base, qui s'achètent une voiture là, par exemple. Puis ils vont drifter, puis là, quand ils finissent par retourner aux États-Unis, ben ils vendent la voiture à quelqu'un d'autre. That's it. Fait que comme ça, ta voiture est toujours sur place. Fait que t'as pas besoin de payer. Tu payes pas l'entreposage, tu payes pas rien de spécial. Puis dès que tu te présentes là, ben tu peux travailler dessus gratuitement. T'as pas besoin de payer pour avoir accès à un lift ou avoir accès pour changer des pneus. La seule chose que tu payes, c'est que s'ils te donnent un coup de main ou s'ils te vendent de quoi.
C'est quand même cool, ça.
Fait que c'est juste ça ou le tuning, là, whatever.
Mais c'est fait comme un testament à du fait que le principe qu'il y a tout. Tu vois, Ebisu, tu as tout ce que tu as besoin pour avoir du fun. Un week-end complet. Il n'y a pas de motel sur place, mettons. Ça pourrait être
ça. Ça serait juste ça.
Il manquerait juste ça. Il y a le restaurant, il y a le garage où tu as réparé on the spot qui va te le faire ou tu peux le faire toi-même. Puis il y a même une station service pour gazer sur place.
Puis le pire,
parce que je sais que si je vais, mettons, à Montmagny, là, tu sais, je peux m'amener des bidons de gaz, là, évidemment, de race fuel ou whatever, mais là, j'ai même pas besoin d'en amener.
Il y en a là-bas.
L'acheter là.
C'est fucking plus simple. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que tu disais qu'il y a comme pas de place à dormir, mais Ibizu sont assez comme
open
qu'ils ont comme une grande salle pour comme les pilotes. Puis tu peux dormir là, genre, une ou deux journées, si tu veux, genre.
Non.
Je suis comme, voyons, donc, ils chargent pas. Ils sont comme, ouais, tu peux dormir.
Amène ton sleeping bag, puis ils dorment
sur le plancher. Ouais, c'est genre ça. Tu sais, c'est comme, dans la tête de quelqu'un qui trippe absolument, qui est juste comme, moi, je vais payer le moins cher, je vais tout mettre sur la fin de semaine de drift que j'ai. Ben, il va dormir dans un sac de couchage à la piste, genre.
Ben, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est, Ibizu a été, construit, slash,
Créé,
ouais. C'est comme on le connaît aujourd'hui, par un drifter.
un drifter.
Le Larousse, il se
lance. Un drifter.
Un dériveur.
Un
drifter. Un drifter. Ça fait genre un cabochon. Je voyais quelqu'un en français, un journal parler de drift en français en disant juste dérive.
Dérive.
Des circuits,
oh
des circuits de dérive.
Ah, nice.
Ah, OK.
OK.
Puis, mais c'est ça, c'est Nobushige Kumakubo, qui est au début des années 2000, je pense qu'il a commencé.
Qui a racheté.
Ouais, qui a racheté les terres. C'est un drifter qui a commencé, qui a grandi dans le coin de Fukushima. Puis il a été lui-même propriétaire de terres, je pense. Puis par le fait même du marché d'autres terres, marcher ces terres-là, mais en faire des circuits de drift pour les amateurs.
C'est ça.
C'est ça qui est un circuit pour les amateurs.
Ça devait être tellement populaire au début de ces années-là, là, de 2000 et autres, là. Que je veux dire, c'est sûr que ça allait pogner. Là. À place d'être dans la rue, ben.
Construit par des drifters, pour des drifters.
Exact.
Je sais pas si ce genre de concept-là pourrait passer à. Tu sais, n'importe quel.
Nord,
n'importe quel. Ouais, ça, mais tu sais, sûrement, quelqu'un arrive avec une idée, puis là, à la ville que tu veux le faire, il faut que ça passe à la ville, puis tout ça. Puis là, je sais pas si avec toutes les fermetures qui se passent.
Si on se fie à la tendance ici. Là.
Ouais. Parce que pour vrai, c'est tellement. Je trouve que c'est tellement un bon concept. Là.
Ouais, mais là-bas, ils sont vraiment pas.
C'est
comme
pas
anti-circuit.
Comme ici, hein.
Ouais, non, c'est la culture, je pense, est très à l'acceptation,
laisser vivre. Ah ouais, vraiment.
Tu le vois, là, je veux dire, je suis désolé. Puis tiens, j'ai rien contre la culture québécoise ou canadienne, mais jamais au grand jamais, une piste te chargerait pas pour dormir chez eux.
Ouais.
Jamais. Là. Tiens, pis,
c'est sur une tente ou un camping-car.
C'est pas un reproche à personne, c'est juste que comme c'est typiquement culturel, je crois. Ouais. De dire, on va accepter les gens de tout ce qu'ils veulent, puis les accueillir chez nous.
Tu me donnes le goût de starter une piste, là.
Ouais, mais. Non, mais moi, je trouve
mais
ça
pense
vraiment.
Je pense qu'au Japon, il y a une grande notion de respect aussi, là, la valeur de respecter les choses des autres, genre. Mm-hmm. Je pense que c'est fort aussi, là. Tu sais, ils font confiance aux gens de pas.
C'est sûr qu'il doit y avoir des règlements de bruit.
Ouais.
Mais tu sais, on s'entend qu'ils sont déjà d'une montagne. Faut qu'ils sont...
C'est ça. Ouais,
ils doivent déjà les placer loin. Hein.
Au Québec, avec toutes les fermetures qu'on a, les gens, tiens, on en a parlé souvent, mais tiens, les terrains les plus proches qui sont restants sont près de où? Les pistes.
Ouais.
Mais, les terrains se vendent autour, puis les gens se plaignent.
C'est ça.
Même à Tremblant, qui est quand même c'est une place reculée, entre guillemets, là,
puis
reconnue Tremblant.
Aussi.
Puis là, ils ont des plaintes. Là, le circuit,
c'est ça. Parce que c'est ça, nous autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les terres, là, après ça, ils commencent à construire. Parce qu'il manque,
manque de
place, puis là, ça se construit alentour de ça, puis après ça, ça chiale.
Ouais, c'est ça.
Comme s'ils vont là, puis ils sont pas au courant. Genre, c'est...
Ouais. Mais tiens, la Pierreville, c'est un peu ça aussi, là, en tout cas. J'en parlerai pas longtemps, mais. Non, mais les terrains autour sont tous aux propriétaires. Fait que lui, il y a comme la paix.
Il y a un peu la paix.
Ah, ok, je comprends, ouais.
Fait comme, mais tiens, Saner, là, c'est ça qui est arrivé, là.
Ouais,
ils ont vendu des tours autour. Puis parce que là, les gens sont comme, on veut de la place. On m'a arrêté, là, s'il vous plaît, là.
Ah, tu t'installes à côté d'une piste, mané, c'est comme, tu pensais
quoi. Tu l'as cherché,
là. Tiens, c'est comme si. Ibizu, genre, les gens. Fait moi, c'est là depuis les années 70. Mais moi, je suis là depuis 10 ans, puis je veux le respect.
Mais check l'autodrome, tu faisais un bout, là, c'était là.
Ouais, mais si c'est autre chose, par exemple, c'est plus un problème.
Là, c'est le gouvernement aussi qui ben, voulait avoir les terres pour passer des lignes électriques ou de quoi.
C'est un lieu stratégique pour
Hydro-Québec.
Mm. Fait qu'il n'est pas fini, malheureux. Mais bon, pour revenir un petit peu sur Power Vehicles, c'est quand même le fun parce que, exemple, que tu es allé en voyage, tu as acheté un char, puis finalement, tu l'as tellement aimé que tu te dis, je le veux, mais chez nous. Ben, ils peuvent te l'envoyer.
Ah ouais, ils font une exportation.
Ouais, ils offrent le service d'exportation. Ils offrent aussi le service de démantèlement. Fait qu'exemple que tu as crash ton S13, OK? Ben, ils peuvent te vendre un shell, puis faire le service d'enlever les pièces du vieux que tu as pété, que tu as crash, puis le mettre dans le nouveau.
C'est bon.
Fait que, tu sais, c'est littéralement, ils font tout, là.
Et... on va pas vivre là-bas?
Ben, moi et Xavier, on va aller en voyage. Peut-être qu'on va rester là. Je veux dire, il y a sûrement un paysage. Un pays.
Un quoi?
Calique, c'est quoi ta job, man? Calique.
Brag.
Il y a clairement quelque chose de même qui existe là-bas. Puis il y a clairement un McDo qui peut m'engager. Puis, ce que je trouvais cool, c'est que ils t'offrent aussi la possibilité. Ils ont comme 4 classes de voitures que tu peux acheter. On dirait vraiment un
comme
jeu
dans,
vidéo.
Comme
là,
dans Forza.
Ah ouais, c'est pour vrai, c'est direct ça. T'as la classe Light Tuned. Ça, c'est des voitures de base turbo avec le turbo d'origine. Ils vont peut-être avoir un LSD, peut-être des petits coilovers, un exhaust, des bucket seats, une bonne clutch.
T'as quoi de base, là?
Puis, ils disent que ça vaut entre 600 000 et 800 000 yens. Fait que, vite de même, on va dire 7 à 10 000 piastres, le char.
Canadien.
Canadien, on va dire ça vite de même. Puis ça, ça commence à se faire rare parce que tout le monde commence à se les voler pour les exporter. Puis ils ont la deuxième catégorie qui s'appelle les mid-tune. Donc, t'as un turbo un peu plus gros, t'as des modifications, un ECU, des injecteurs. Ça, tu vas avoir entre 10 000 puis 13, 14 000, tu vas avoir un char comme ça. Tu vas avoir competition ready. Donc, tu vas avoir le big turbo, la cage, tout ajustable, la suspension, l'aéro déjà monté. Ça, tu vas payer en haut de 14 000. Mm-hmm. Puis, tu vas aussi avoir la classe D1 Cars, donc déjà prêt pour la
tout
compétition
D1. Fait,
là. Je veux dire, c'est la crème de la crème, best of the best, qui ont déjà monté. Ça, tu vas payer en haut de 27, ouais. En haut de 25, 27 000 là, pour ça. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça fou à quel point ils peuvent build des chars comme ça puis juste les revendre. Puis, je trouve ça drôle parce que
ça marche.
Quand ils te le vendent, après, il faut même te le racheter. Mais ils t'offrent 55 à 60 % du prix qu'ils ont payé.
C'est sûr, là. C'est comme
ils
font
du profit infini. C'est fou. Ils rachètent le char. Ils vendent le char. Ils le vendent, je sais pas, 10 000. Le gars, il dit « Ah, j'ai fini. » Il revend 6 000. Il leur vend 10 000. Ouais. Il leur vend 6 000. Il leur vend 10 000.
Oui, c'est rien. Là, ça, mettons, là, il rachète justement le char. Là, c'est genre, OK, il y a peut-être juste ça à changer. Il change. Putain. Ouais. Ah ouais, monte ça. Man.
C'est ça. Fait que, belle petite business. Je pense que il manque cool. Pas de job.
Ben non, c'est cool. Moi, je serais genre acheter un char à, comme tu disais, la première. Là. Juste ça. Là,
ouais, t'as du fun pour mourir.
À la limite, la deuxième, au pays, le mid-tune. Là.
Ah, une cloche.
C'est affaire. Pas obligé de compétition. Là,
moi, je prendrais le bas tune, le pied dans le fond. Quand ça pète, je te remets avec les teints.
En as-tu un autre?
Ouais,
c'est plate parce que ces voitures-là deviennent de plus en plus rares parce que toutes ces voitures-là sont rendues exportées. Moi, aux États-Unis, un peu au Canada.
Fait que même eux, c'est ça, à un moment donné, ils vont être comme à court de ressources.
Ben, il y a un gros feeling de même au Japon, surtout du côté des voitures classiques comme Skyline R32 ou toutes les voitures qui commencent à prendre beaucoup de valeur. Mm-hmm. Les Japonais sont comme « Wow, attends un peu, là. Tout est exporté, là. On n'aura plus rien ici, là. »
Ouais, c'est ça.
Fait qu'ils commencent à avoir du monde qui veulent, comme, garder ces voitures-là ici. Mais, tu sais,
le truc numéro un pour faire ça, c'est monter le prix. Ça décourage le monde.
Ouais.
Mais ça monte le prix des gens locaux aussi, tu sais.
C'est rendu là, c'est le problème, c'est qu'ils veulent plus les mettre à l'encan.
Ouais.
Ils veulent juste les vendre.
Ils veulent les garder,
ici.
Là.
Mais, tu sais... C'est comme toujours un combat, là, parce que même si tu le vends sur un site web, je sais pas moi, que tu dis que tu fais pas du shipping international ou whatever, mais t'as quand même un petit fin finot qui va envoyer un petit contact te voir pour l'acheter, puis qui parle japonais, puis t'es genre « Ah, that's it, je le vends à un japonais », puis finalement, ben, c'est shippé. Moi,
il le ship ailleurs.
C'est shippé en Californie, tu sais. Fait qu'il y a comme une grosse idée de comme garder les voitures ici, puis de faire des recherches sur l'acheteur, puis mais c'est pas quelque chose qui est encore très fort, là.
Parce que c'est plate à dire pareil. Parce que
ils se font vider, là.
Maintenant, il n'y aura plus, là, ces chars-là, on s'entend. Là. Ouais. Alors, il va juste eux, mettons, qu'ils ne sortent pas, puis qu'ils gardent. Puis
c'est comme si.
Les seuls, ils vont rester. Là.
On faisait la même chose, mais avec le sirop d'érable.
Ouais.
T'es toutes les érablières, vous êtes juste toutes chippées. On est comme, what the fuck, man? C'est notre affaire, ça, là.
T'en veux pas du sirop de poteau?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si on nous vendait du sirop de poteau à la place des épiceries. What the fuck is this?
Ouais, c'est ça.
Parlant de chars rares, là.
Ouais. Oh, hey, yo, il a segué. Fait que cue the music. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dansé là-dessus.
JDM Corner.
JDM Corner. Je suis pas allé avec un char de drift.
Non. Mais j'ai juste vu le nom de côté. Puis j'ai comme. Ah.
T'allais avec un autobus.
Okay. Ouais.
Un Peterbilt.
Pétard build.
Fait que gênez-vous de poser des questions.
Ouais, c'est déjà fini.
Puis cette semaine, je me suis dit, je veux parler d'une voiture qui est emblématique de Gran Turismo. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette voiture-là. Mais en tout cas, là, j'ai juste le goût d'acheter cette voiture-là. Genre, ça, c'est. Là, j'ai le goût de vendre mon Pajero puis d'aller puis chercher quoi de même.
Ah, ok, okay je sais déjà. Je
sais la gueule. Non, tu sais même pas c'est quoi.
Ah,
non,
t'es sûr?
C'est une Mitsubishi FTO.
Ah, je sais pas c'est quoi. Ah,
c'est quoi. Là, je me trompe-tu. Est-ce que c'est un modèle qui s'est vendu au Canada? Il
non.
Me semble que
non. Non.
Hey, GDM Corner. GDM Corner, c'est des chars exclusifs japonais.
Ouais, tu connais-tu mon concept?
Je t'en ai, là. Fais mon micro, là. C'est une blague.
Puis, cette voiture-là était juste vendue au Japon. Donc, okay. Pour répondre à la
j'avais attendu
question.
30 secondes.
Puis, il y a eu un peu de vente en Angleterre puis en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait une grosse demande dans ces pays-là pour ces voitures-là, genre début 2000. Puis, ça a fini en 2000, la production. Donc, ouais, cette voiture-là a été produite de 94 à 2000. Puis là, vous allez me dire, mais FTO, c'est quoi ça? Y a-tu quelque chose que ça veut dire?
For towing.
Ouais, non. Le nom FTO provient de du modèle de Mitsubishi des années 70, qui était le Mitsubishi Galant FTO. Puis c'était le petit frère de la GTO. Parce que Mitsubishi, en même temps que Pontiac, avait pris le nom GTO pour Gran Turismo Omologato,
ouais.
Qui était, je pense, la même chose que Pontiac.
Oui, oh, exactement ouais. La même Pontiac chose. Pontiac, il y avait ça de Ferrari.
Ils se parlaient pas, c'est deux pays complètement différents, puis ils sont arrivés avec le même nom.
Mais dans ça, ce temps-là, c'est parce que c'était pas breveté. Là,
ouais, c'est ça, quelque chose de même. Puis, la Galant, pour vous donner une idée, la Galant, c'était une voiture de tous les jours pour Mitsubishi. Tu avais la version des années 70 qui était quatre portes, t'avais la version de base pour la. Tu sais, c'est une sedan de base, là, ok?
Mais Chris, il est beau, le char.
Ouais, non, c'est. Ça, c'est.
Mais promènerais-moi là-dedans?
Ouais, ouais, on en parlait. Pour ceux qui.
Je t'ai intéressé.
On va décrire comme... dans pas bien long pour ceux qui sont une écoute de Spotify.
Je suis comme tout excité, là.
Puis, dans le fond, la Galant, c'est la première voiture de Mitsubishi qui était vendue en Amérique du Nord. Donc, sous le nom de Dodge Colt. Donc, des années 70, là. Way back. Il ne doit pas en rester beaucoup. Là.
Non, c'est rare que tu vois ça.
Ils ont peut-être vendu 3, là. Puis, la version GTO, c'était la version sportive de la Galant. Puis, tu avais deux portes, un hardtop. C'était développé pour courser. Ça n'a jamais coursé parce qu'en 1973, il y a eu la crise du pétrole qui a affecté le monde entier. Puis, ils ont juste laissé faire ça, mais il y a quand même eu du succès en rallye. La version de base de la GTO avait 105 HP, un 1.7 litres. En 1970, c'est pas des œufs, mais c'est correct. Puis, t'avais la version GSR. Je sais pas si ça vous dit de quoi, GSR.
Ben oui,
les Lancer GSR. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est à partir de là. T'avais le moteur 2 litres de 125 HP. Oh. Dans ce temps-là, là, c'était ça le point de vente. Hey, 20 HP de plus. Pensez à ça, mon petit jeune. Puis là, tout le monde était comme, aïe, 20 HP.
Tabarnak, qu'est-ce que c'est?
Maintenant, une compagnie qui dit un intake donne 20 HP de plus, le monde va comme pff, juste ça.
Ils se sont fiers à la boîte. La boîte, t'achètes un PIFLO, ça dit tout le temps ça. Là. 10 HP de plus. Ouais.
Dino Tune, juste comme une ligne. Là.
Ouais, c'est ça. Ton char stock, mais c'est le char stock pour tout le monde.
Puis, la version GSR, c'était t'avais des pneus super larges de 185 de large.
Attends, super large.
Attends, super large. Dit, c'est entre 70 et 75.
Dans le fond, le premier, il venait avec des bangs. C'est des bangs de la
roue. Des roues de basic.
Ça me faisait rire de le dire de même parce que, tu sais, aujourd'hui, tu te dis 185, il n'y a même plus un char qui roule seul.
Je pense que les Mirage ont ça.
185. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense que les Mirage avaient le même pneu que les GSR.
Ouais, en genre. Dans cette année-là, c'est normal. C'était,
c'était comme des pneus sport, c'était ça.
Hein, comme l'image que Porsche a repartagée récemment, là, de leur comparaison, leur pneu de 911 en les années 50. Dans les années 60, je pense. Okay.
Ouais,
les premiers modèles. Puis comparativement à ce qui vient stock maintenant, c'est 911.
Ouais, c'est fou. Tu vis les bodies, même quand ils sont rendus white.
Les années 60, c'était un spare. Là, ouais, une roue de secours, puis maintenant, c'est du 300 plus. 325
dans la carte qui rentre dedans.
Ouais, fait, ça a beaucoup changé, mais je vais juste le montrer un peu de même. Puis en plus, la version GSR, t'avais des fender flares.
Sick, man.
Mais moulé, c'est comme.
Dire, on aime ça.
C'était pas comme c'est à l'usine, là. C'était comme le kid dans le 75 avec la calette par en arrière. Qui comme...
dans l'usine.
T'es plus à bout.
Puis, ça, c'est la version GTO. qui était le top of the line. Puis t'avais la version FTO, qui était la version un peu plus abordable de cette version-là. Puis comment ils ont fait, c'est qu'ils sont basés sur le châssis de la GTO. Puis ils ont dit, elle est trop grosse.
On va enlever le pif.
On va enlever 5 pouces.
On va mettre du 155.
Tous les hommes savent que 5 pouces, c'est gros.
Ouais.
T'avais le moteur. T'avais un moteur un peu plus petit. Donc un moteur de base qui était un petit peu modifié à comparer de la version de base. Donc c'était surtout pour réduire le coût. Parce que dans ces années-là, je veux dire, avec la crise du pétrole, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient partager des pièces avec la GTO puis réduire le coût pour les acheteurs. Donc avoir une voiture un peu plus sportive, mais qui ne mettait pas à rue au final. Puis t'avais aussi une version GSR de la FTO. C'est pour vrai, là, ils commençaient à se mélanger des noms dans ce temps-là. Là.
Attends, t'as la GTO, t'as la FTO, t'as la FTO GSR.
On dirait que ça ressemble.
Quand ton GDM Corner, que tu parlais avec les Subaru.
Ah ouais. Ils ont fait comme Subaru. Ils mettaient toutes les lettres possibles. Ils ont pris un alphabet, ils ont crissé ça sur la table, ils ont fait un nom avec. Puis, la version de base, la version GSR, excusez-moi, dans le fond, ils prenaient le 1.6 litres, qui était le plus petit moteur de la GTO. Mais il modifiait le carburateur, puis c'était la version GSR de la FTO. Pour vrai, j'arrête d'aller plus loin en détail là-dedans, là. On s'en galise un peu, c'est vieux comme genre. L'important, c'est quoi? C'est en années 90, right? La Mitsubishi FTO est pas encore arrivée. Les Mitsubishi, ils ont un problème, OK? Ils ont aucune voiture dans le secteur de la petite coupée deux portes. Dans ces années-là, depuis quelques années, t'avais la Civia, t'avais la Toyota Celica ST182, fait que traction. C'est pas la GT4, ouais. C'est juste en dessous. T'avais la ST202 de Toyota, encore la Celica. T'avais la Mazda MX-6. Si vous vous rappelez, c'est la Mazda Mystère pour ici.
Mm-hmm. MX-6, c'est le gros modèle pourtant, non?
Ouais, mais c'est...
Long. MX-3, c'est pas...
Non, c'est plus petit ça, une MX3.
MX3, c'est.
Mais c'est ça. Ah, je pense que tu parlais des petits. Petits à ce point-là. Ok.
Mais bon, MX6, pas si petit que ça. On a déjà vu.
Oui, MX6. Ouais, ouais.
T'avais la Honda Prelude, t'avais la Nissan Silvia, la Mazda MX6, puis les Celica ST182, puis 202. Ouais. Puis il y avait rien là-dedans. Tu sais, il y avait la Lancer Evolution, il y avait la Mitsubishi GTO qui était la grosse bagnole GTO encore. Mais il y avait rien pour contre ces voitures-là. Fait qu'ils se sont dit, on va le faire. Donc ils ont conçu une voiture. Traction, donc la FTO c'est une voiture traction pour compétitionner dans ce secteur-là. Puis, je sais pas si on a parlé plusieurs fois, là, mais les années 90, milieu 90, le Japon commençait à moins bien filer un peu. Donc, tu sais, ça a sorti un peu dans un moment un peu bizarre cette voiture-là. Il n'y a pas eu un énorme succès, mais ça a quand même gagné à la première année en 94 le titre de la voiture de l'année au Japon.
Tout,
de tout le Japon.
Ouais.
Tout le Japon.
C'est la première fois qu'une voiture deux portes sportive gagnait le titre.
C'était temps.
Ouais. Parce que, tu sais, habituellement, t'es une voiture de l'année, c'est surtout des voitures pour les gens tous les jours.
Ouais, les grands publics.
Mais la grosse différence, c'est que cette voiture-là, elle avait des grosses avancées du côté technologique. Déjà là, tu sais, on va la décrire un peu pour le monde qui nous écoute sur Spotify. On va montrer des photos en ce moment pour le monde qui nous écoute sur YouTube. T'sais, c'était une voiture qui était complètement différente. C'était là qu'on commençait vraiment à Mitsubishi du côté des grosses courbes, contrairement à ce qu'ils faisaient avec la Lancer qui était plus boxy encore. La GTO, t'avais quelques courbes, mais c'était pas tout à fait aussi bombé que la FTO. Excusez-moi.
Dis-moi. Prends ton temps.
Aïe, aïe, excusez.
Oui.
Qui a ouvert la porte.
Puis en même temps, ben ils ont fait des grosses avancées parce que c'est la première voiture sport qui offrait au Japon une boîte automatique avec mode manuel.
Le plus moins.
Ouais, le plus moins a fait son début dans la FTO au Japon. Donc avant ça, il n'y avait aucune voiture qui offrait une boîte automatique avec des plus moins. Donc ton char, tu peux lui dire merci Tommy pour la boîte automatique à changement de rapport manuel.
Fucking manuel, mon char.
moi, je vais dire comme tout le monde qui vend de leur char. Moi, il est Shiftronic. je peux shifter au volant.
Ça s'appelait Tiptronic.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est le même. C'est comme un GTR.
Fait qu'à chaque fois, tu fais 1, 2, 3.
Comment il s'appelle ce gars?
Tiptronic.
Non, mais le gars qui a créé ça. Tu sais pas?
Ben, je sais pas.
C'est sûr, j'allais crier son nom chaque fois que j'allais ficher. Merci, Rodriguez. Pour cette vitesse-là, je te remercie. Rodriguez.
Donc, c'est parti de là. Puis c'est surtout pour ça qu'il a gagné la voiture de l'année. C'est que c'est une voiture super fiable qui poussait un peu du côté de la technologie. Parce que si on se bat, tu sais, les versions de base, c'est sûr que c'était les versions de base un peu moins intéressantes. On va aller assez vite par-dessus ces versions-là. T'avais la version GS, GR et GPX. Donc, GS, t'avais un 4 cylindres de 123 HP, blablabla, bla, 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 on s'en
fout.
Le
plus
bas,
là.
Ouais. T'avais la version GR, qui avait un V6 de 170 HP, blablabla, bla, bla, on s'en crisse, pas la grosse version. Puis, t'avais la GPX, qui avait un V6 2 litres de 200 HP.
Hein? V6 2 litres?
Ouais, ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Les V6 de... les V6, ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est que j'imagine pas les petits cylindres, genre.
Hey, ça doit être des petits. C'est un bout de crayon ou pas?
Donc, c'était, les deux V6, c'était gros de même, c'était 2 litres. Mais la version GPX, il y avait la technologie MiVec. MiVec, c'est la version VTEC de Mitsubishi. Donc, t'avais quand même 200 HP qui sortaient de cette voiture-là. Puis, t'avais tout plein de. Les options de base, c'était simple. T'avais la climatisation automatique. J'aimerais le dire, en 94.
C'est bon, ça.
T'avais le OBS, puis t'avais des roues 14 pouces. Ouf. Ça, c'est la version de base sur la GS. Puis en option, mais là, tu peux ajouter la transmission automatique, tu peux avoir les airbags, tu peux avoir la traction control, tu peux avoir du...
Pourquoi les airbags?
Ben oui, en 94, au Japon, c'était une option, les airbags.
Ah oui? Ouais. Mais partout dans le char, là?
Ou juste t'en avais aucun de base.
What?
Tu peux en ajouter un du côté passager. Comme... toi, tu mourrais.
Quand comme... tu regardes ta femme, t'es comme... T'as une tête forte, hein? T'as une tête dure. Ouais, mais elle est pas.
J'ai un bag, j'ai pas pris l'option des ceintures.
T'as la tête dure, toi. Fait que tu as toutes ces options-là que tu peux rajouter. Puis, à partir de là, ben... La deuxième année de construction en 95, c'est là qu'il y a eu la plus grosse année. Je pense qu'ils ont quasiment eu 20 000 ventes dans l'année. Mais en tout, entre 94 et 2000, ils en ont produit, je pense, 36 000. Donc, tu sais, en une année, ils ont fait 20 000, puis le reste 10 000, ils en ont vendu sur 6 ans 10 000. Mm. Fait que c'est une voiture qui a bien débuté, puis qui a juste crash après, juste parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment, plus qu'autre chose.
Comment ça, à part être une autre classe de voiture, mettons, comment ça se comparait avec la GTO? Puis la, la popularité, puis les ventes, puis la 3000 GT.
La GTO, la Mitsubishi GTO au Japon, c'est sûr que c'était le gros modèle haut de gamme. Là.
Donc,
c'est une voiture qui était plus en compétition, des NSX, des Supra, des RX-7 FD. Donc, tu sais, c'était une voiture sport de luxe, on pourrait dire. Donc, la FTO, elle, se classait à limite, je te dirais, en dessous de la Lancer même, la Lancer Evolution.
OK.
Donc, c'était la première voiture, la voiture la plus abordable sportive de Mitsubishi, au final. Donc, tu avais ça, tu avais la Lancer, puis tu avais la GTO. Puis, tu avais le Pajero. Tu avais le Pajero, là.
Tu parles-tu du Pajero qui sort pas d'un banc de neige, ou?
C'est lui qui est à vendre.
Hein? Oh! Ouais, pas encore. Peut-être bientôt, mais pas encore. Puis, la Big Boy, la version GPX que je vous ai parlé, ça venait avec le V6 que je parlais, avec le MiVec, super le fun. T'avais des roues 17 pouces. T'avais des calipers 2 pistons en avant.
Ouf.
À la place de 1.
Ça
t'avais un aileron, puis t'avais des side skirts.
C'est sûr, 200 HP, c'est dur à tenir.
Ah non, c'est sûr. Fallait que
ça
tienne. Oui, t'avais les LSD aussi qui était de base de cette version-là. Puis t'avais des fogs, les miroirs électriques. T'avais tout plein d'affaires comme ça. Puis, qu'est-ce que j'allais dire à partir de ça? En 97, Mitsubishi, ils ont fait « Ouais, ça commence à moins bien aller, les boys. » Fait qu'ils ont dit « On va faire une version plus sport. »
On va faire la version... Je suis sûr, c'est genre la Eclipse.
Non. Ils appellent ça la version R.
Fait que FTO,
je rajoute une lettre.
FTO GPX version R.
Oh my God.
Type R.
Ouais, c'est ça. Il était comme « Ah, R, c'est tellement une belle lettre.
Ouais. » Ah, ça fait tellement racing.
Ouais, mais tu sais, père, c'est Honda qui a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, les boys? Hey, version R. Des exemples. Ouais. C'est comme ça, c'est arrivé.
Puis à partir de là, toutes les autres compagnies ont commencé à mettre un R, mais de leur façon.
Ouais.
Check comme Sentra, S-E-R. Ils mettent un gros R, là. C'est genre, OK. OK.
Puis t'avais. Écoute, qu'est-ce que t'avais avec un R? T'avais pas R-Spec chez Acura?
Mm-hmm. Ben, qui est encore valide aussi.
Voilà.
R-Spec, c'est nouveau, je pense.
En tout cas. plein d'air partout. Ouais. Puis la différence, c'est qu'il avait changé un peu le bumper en avant pour mettre ça un peu plus au goût du jour. T'avais un aileron ajustable, un peu comme un MR2. C'est pour vrai, c'était comme la mode là, dans ces années-là d'avoir un aileron ajustable. Là, t'avais toutes les voitures que tu peux avoir qui venaient avec un aileron ajustable. T'avais un LSD Torsen à la place d'un visqueux, donc t'avais un LSD un peu plus intéressant. T'avais un intérieur, pour vrai, l'intérieur de ces voitures-là. Là. Tu pouvais l'avoir, si la voiture était blanche, t'avais des bancs bleus. Puis les bancs, là, pff, c'est une solide intérieur. Là, on va montrer une photo pour ceux qui sont sur YouTube. Là. C'est très cute comme intérieur. Sinon, t'avais, quand t'avais la voiture noire, tu pouvais avoir des bancs rouges ou noirs. En tout cas, t'avais comme des combinaisons là, que tu peux avoir. Fait que, tu sais, ça va être quasiment le look de mon MR2.
Ben, c'est
comme un néo-blue, genre.
Ouais. C'est très semblable au bleu Recaro, je
trouve. c'est très similaire à bleu Recaro. C'est super bucket.
Ça ressort quasiment à mauve.
Ouais. C'est vrai que c'est comme un bleu très royal.
Ça, j'ai dit comme néo-blue, genre.
Ouais, puis c'est des bancs, style à la... des bucket seats. Ouais, c'est pas exact. Juste des bancs bleus, c'est des bucket seats.
Mm-hmm. Juste des bancs peinturés. Ouais.
T'avais une suspension un peu plus sportive avec des swivers un peu améliorés. Puis t'avais des HD.
Oh!
Ouais.
Mais... t'es pas eux que t'achètes au Green Tire. Des vrais HD.
Des vrais HID.
Puis t'avais aussi la FTO. GPX. Version R.
S.
Aero.
Je veux dire S.
Puis la Aero, la grosse différence des voitures-là, c'est que c'est la version lightweight de la version R.
Pas d'iClim.
Fait qu'il enlevait l'iClim.
Les airbags.
Il enlevait les fog lights. Il enlevait les side skirts. Il enlevait les miroirs électriques. Il enlevait l'isolant sonore.
Ça ressemble à la, comme ton dernier JDM Corner, le Subaru type RA.
Ah oh ouais.
Type RA, WZ240.
La version qui strip tout.
S201. J'ai même pas parlé de la S201. Aïe. Aïe.
T'as
dû rappeler. Elle va faire démoler par les gars de Subaru.
Prochain JDM Corner. Juste de celle-là.
Ouais. Fait que c'était pas mal ça pour cette voiture-là. On a pas mal fait le tour. Il y a eu un peu de compétition avec ces voitures-là. Ils ont fait, je pense, le All Japan Championship. Pas eu énormément de succès. Je pense que le meilleur résultat, c'est 11e. Mais c'était une voiture qui était surtout là pour embarquer le monde dans c'est quoi des voitures sport. Donc, tu sais, les plus jeunes, OK, t'as pas de temps à l'argent, mais voilà ça qui est cool puis qui peut avoir une certaine performance. Puis après, tu pouvais peut-être évoluer dans la gamme Mitsubishi avec la Lancer Evolution, puis après la GTO quand t'es rendu le CEO de Panasonic, genre.
Panasonic.
Mais fait qu'après 97 la dernière année?
2000 la dernière année.
2000. Après ça, ils ont pas refait d'équivalent à la FTO. Ils ont juste tiré à plug sur le petit char deux portes sport.
Exact.
Puis la GTO, elle, c'est pas mal les mêmes années qu'ils l'ont arrêté.
C'est en 2001 qu'ils ont tiré la plug sur la GTO, me semble.
Ouais, mais là, c'est tout après la fin de, justement, de la bulle économique japonaise. Fait que les
début 2000, ça allait moins bien partout. Là,
pas mal toutes les brands ont commencé à dropper leurs chars.
C'est ça. Là. Donc, t'avais la RX-7 qui est partie en 2002, la Supra qui est arrêtée en 2002, la GTO en 2001. Je veux dire, tout le monde commençait à enlever leur grosse voiture. Puis la FTO, en plus, il y a des nouvelles lois du côté des tests de crash au Japon qui n'étaient pas capables de respecter. Il aurait fallu une refonte complète du modèle. Mm. Et en fait, on vend 800 chars par année.
Maintenant,
c'est pas beaucoup.
C'est la plug.
Fait que c'est ça. Ouais. Ils se sont dit, ça vaut pas la peine de continuer plus avec ça. Qu'est-ce qui est plate, c'est que pour une voiture sport de même, tu retrouves vraiment, vraiment, vraiment plus de voitures automatiques. Fait qu'il faut que tu te battes pour trouver une manuelle.
Ouais. J'imagine que sinon il doit y avoir un swap qui existe. Là.
Ouais, c'est certain, mais faut que tu trouves les pièces manuelles.
Ouais, c'est sûr.
Puis ça devient pas mal ça pour le JDM Corner. C'est une voiture que je veux absolument avoir dans ma vie une fois. J'en ai déjà spoté une à vendre au Canada, en Alberta. Puis j'étais trop jeune, j'avais pas l'argent pour ça. Puis j'étais jaloux, vraiment.
On dirait qu'elle m'impressionne même pas. Juste du point de vue que c'est... Non, mais... Non. Du point de vue que c'est le petit frère de la GTO, elle tombe dans l'ombre facilement.
C'est ça.
J'ai l'impression.
Puis le pire, c'est qu'elle a été nommée en Angleterre la meilleure voiture usagée de 2004.
My God.
Ouais, la meilleure voiture usagée à acheter tout court. Parce que tellement... je pense en 99, les dealers Mitsubishi en Angleterre pouvaient faire des commandes spéciales de FTO. Pour les vendre dans leur dealer.
Qui restaient en stock, qui n'étaient pas encore vendus, genre.
Ah, quelque chose comme ça, là. Il y en avait 800 dans le cours qui traînaient. T'es comme, ouais, on pourrait peut-être les vendre ailleurs.
Moi, c'est le V6 2 litres qui m'a tué. J'avais quoi?
J'aimerais juste enlever la tête,
Voir.
Puis voir les petits cylindres, genre.
Je checkais le marteau à côté de moi, puis sûrement que la grosseur genre... la tête du marteau, c'est la grosseur de la tête du piston.
C'est genre,
c'est
encore lisse.
Ça va être petit. Ah, parce que, tu sais, c'est... Ça veut dire 2000 millilitres. Right? Divisé en 6. Ouais.
Mais c'est comme le KLZ2 de Mazda, là. Qui est 1.9 litres.
Ah oui.
C'est un V6.
Un V6, mais 1.9.
Je savais même pas ça.
C'est minuscule.
C'est vrai. C'est dans la même gamme que ça, là. Ouais. Fait c'est spécial comme moteur, puis j'aimerais ça en avoir un, mais je pense que ça arrivera jamais. À moins que je me décide d'en m'en importer un. Parce que j'en veux.
Tu feras pas ça.
Je serais down. J'y
tu
pense.
Tu feras pas ça.
Pas. J'y pense fort.
Il y a tellement d'autres chars plus intéressants que ça que tu feras pas ça.
Ah, c'est vrai. C'est un bon point. Il y a un Christ de bon point. Parce que cette semaine, on parlait de la Toyota Caldina. Et je risque peut-être parler dans un autre JDM Corner qui est vraiment plus cool.
Ben oui. J'étais genre, allô?
Fait que, sur ce, préparez-vous. C'était un bon petit podcast.
un bon petit.
Il l'a dit tout le monde. Il l'a dit.
Je pense qu'il est un peu plus court ce coup-ci.
Puis ça va peut-être être la tendance va peut-être suivre ces prochains aussi.
Ouais.
Là.
Ouais. Tenez-nous au courant si vous trouvez que c'était, ouais, ça se rallongeait un petit peu trop les derniers podcasts. On essaie de voir qu'est-ce que vous préférez le plus avec ça. Donc, comme toujours, si tu veux le mot de la fin, Tommy, je te le laisse.
Je n'étais pas prête.
Non, mais tu faut que tu dises à ton oncle, ta tante, ta cousine, ton cousin de nous liker. Sinon, j'envoie des lettres de mise en demeure. Mm-hmm. Je suis sûr de même, mais je dis rien. Non, tu likes sur Facebook. Tu likes sur Instagram. On est sur Instagram, je ne sais pas si on l'a déjà dit. Mais
on le
disait jamais, mais
On est sur Instagram, on est sur pas mal tous les réseaux sociaux. YouTube, tu peux t'abonner, c'est vraiment apprécié. Tu peux même allumer la petite cloche si tu veux, parce que tu vas savoir quand on sort un épisode, ce qui est vraiment nice. Tu peux aussi t'abonner sur Spotify. Puis lâche un pouce sur le post aujourd'hui. On apprécie. Je trouve que on a un peu moins de contact avec vous. T'sais, au début, on avait beaucoup de contact avec vous directement, puis qu'on parlait directement. Je trouve que les gens ont comme pris l'habitude de nous écouter, mais on n'a plus autant de contact, je trouve.
Le feedback.
Oui, exact, avec vous. Ouais. Fait que lâchez-vous lousse. Au pire des cas, on va vous liker vos posts, on va vous répondre. D'habitude, on répond très rapidement, mm-hmm, puis on vous répond à tous. Là. Puis ça nous fait tout le temps chaud au cœur de savoir qu'on travaille pas pour rien, puis on travaille pour vous autres. Fait que...
Bonne semaine, on se revoit sur la prochaine.
Ciao, guys.
Ciao. Bye.